RFJ Info.
Le journal Thomas Nagy.
Bonjour, c'est une erreur de montage qui est à l'origine de l'effondrement du couvert de récréation du campus Stratégie. C'est ce qu'a révélé l'expertise d'un bureau d'ingénieurs. Le conseil communal de Delémont a donné le feu vert pour le montage de la nouvelle structure qui sera mise à disposition des élèves à la rentrée. Silverdust part en tournée européenne. Le groupe de rock jurassien arpentera les routes du vieux continent dès le mois d'octobre. Une tournée marathon de 50 dates en 53 jours à travers 26 pays. Les coureurs du Tour de France se remettent en selle après la journée de repos hier. C'est une étape de transition longue de 167 km entre Albi et Toulouse qui attend les cyclistes avant les Pyrénées demain. Du soleil et peu de nuages, c'est le programme météo de cet après-midi. Les températures seront estivales, il fera jusqu'à 28 degrés en plaine et 24 dans les Franches-Montagnes. Le couvert de récréation de Stratégie sera remonté après l'effondrement de la structure survenue fin juin près du campus de Lémontin. Les travaux vont reprendre pour permettre d'accueillir les élèves du Gros Seux dès la rentrée scolaire d'août. Une expertise a été demandée pour déterminer les causes de l'accident et les éventuelles améliorations à faire. Nina Beuret.
Le conseil communal de Lémontin a demandé des explications de la part de l'entreprise fautive, mais aussi une expertise contradictoire à un bureau d'ingénieurs civils. Il en ressort que l'effondrement du couvert s'explique par une erreur de montage des sangles de lestage. Ces sangles ont été trop tendues d'un côté, ce qui a conduit à un déséquilibre de la structure. Il s'agit toutefois d'un simple accident de chantier. Le concept choisi pour le couvert était adapté et reste l'option la plus adéquate. Il n'y a donc pas eu d'erreur de conception et l'entreprise d'échafaudage choisie reste la plus compétente pour reconstruire la structure. Quant au futur couvert, sa configuration a été légèrement modifiée pour encore améliorer sa stabilité. Les conseils du bureau d'ingénieurs civils seront pris en compte lors du montage et celui-ci fera une vérification finale. En tenant compte de tous ces éléments, le conseil communal a ainsi donné son feu vert à l'entreprise pour le montage de l'abri.
Un service postal sera mis en place à Montsevelier. Dans un communiqué publié ce matin, le géant jaune annonce que ce service remplacera dès le 1er octobre le service actuel en place dans le magasin d'alimentation du village. C'est parce que ce dernier cesse son activité fin septembre. Principal changement pour les habitants de Montsevelier, en cas d'absence lors de la distribution du courrier, il faudra aller retirer les envois avisés à la filiale de Vic. Il sera également possible de remettre une procuration à une tierce personne ou de demander une seconde livraison. Pas moins de 50 concerts en 53 jours dans 26 pays. Silverdust se prépare à une tournée géante à travers toute l'Europe. Le périple du groupe de rock jurassien démarrera le 24 octobre pour s'achever le 15 décembre. Silverdust va écumer le continent pour la quatrième fois en 4 ans. La nouvelle tournée prend toutefois une ampleur considérable avec des passages pour la première fois en Scandinavie, en Turquie et en Grèce. Après s'être produit avec les Finlandais de Lordi l'an dernier, Silverdust partagera l'affiche cette année avec deux ténors du Metal, les Grecs de Rotting Christ et les Portugais de Moonspell. Le chanteur et guitariste du groupe, Kiki Crétin, alias Lord Campbell, nous explique comment il entrevoit cette tournée.
C'est un marathon et c'est surtout une sacrée réjouissance parce que pouvoir réaliser ce genre de tournée absolument grandiose, et c'est vrai que c'est une très belle reconnaissance, mais il va falloir aussi se préparer pour tout ça parce que sur 53 jours, on aura, je pense, deux pauses, deux jours de congé, donc ça va être un bon pari, mais quelque chose à relever, bien sûr.
Alors justement, vous qui avez été sportif d'élite, ancien gardien du HC Ajoie, du HC Bienne, comment on se prépare pour une tournée comme celle-là? C'est un peu similaire à une préparation d'avant-saison?
Bien sûr. C'est une préparation. Là, il va falloir aligner tous les soirs une performance scénique. On sait que Silverdust, c'est un groupe visuel, c'est un groupe qui bouge beaucoup sur scène. Pour ma part, et même pour tous ceux du groupe, c'est 3 à 4 fois par semaine du physique et puis bien sûr du cardio, hein, pour être en forme, pour avoir aussi de l'énergie. Et puis après, ben, pour moi, il y a ma préparation vocale qui intervient parce qu'il va falloir être solide. Il faut vraiment qu'on présente quelque chose de très solide, ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent. Mais là, on a peu de marge de sécurité en fait sur autant de dates.
Des propos recueillis par François Comte. Il a joué un rôle majeur en Afrique du Sud en faisant découvrir aux personnes différentes cultures et en les rapprochant. Voici les mots du manager de Johnny Clegg dans un communiqué annonçant son décès hier. Celui que tout le monde surnommait le Zoulou Blanc a succombé à un cancer à l'âge de 66 ans. Armel Assoumani.
Johnny Clegg, c'était un métissage à lui tout seul. Sa mère, issue d'une famille de paysans juifs, lituaniens et polonais, immigrés en Rhodésie du Sud, devenu le Zimbabwe en 1980, épouse un Anglais. Ses parents divorcés, le petit Jonathan suit sa mère en Afrique du Sud. Enfant blanc dans cette Afrique du Sud pendant l'apartheid, il grandit dans un environnement isolé de toute culture africaine, mais il se lie d'amitié avec le fils du chauffeur de la famille, qu'il initie aux bases de la culture zoulou. C'est dans cette culture qu'il a par la suite puisé son inspiration pour créer une musique nouvelle où les rythmes africains se marient avec les guitares, les accordéons ou les claviers électroniques.
Et Johnny Clegg est connu notamment pour son titre « Assim Bonanga », une chanson dédiée à Nelson Mandela qui signifie « Nous ne l'avons pas vu en Zoulou », un hymne anti-apartheid au refrain chanté en langue Zoulou. L'homme qui appartenait au groupe Savuka n'a pas cessé tout au long de sa carrière de composer une musique pour le peuple et lutter contre la discrimination en Afrique du Sud. Johnny Clegg a été la tête d'affiche du Chant du Gros au Noirmont en 2010 et de Festineuge en 2004. C'est un nom avec lequel il faudra se familiariser, Ursula von der Leyen, 60 ans, médecin, mère de 7 enfants et démocrate chrétienne. L'Allemande succédera à Jean-Claude Juncker le 1er novembre à la présidence de la Commission européenne. Elle a été élue avec seulement 9 voix de plus que la majorité absolue hier soir au Parlement européen. Elle s'installe à Bruxelles pour 5 ans. Est-ce une bonne nouvelle pour la Suisse ? L'analyse à Berne de Serge Jubin.
Malgré l'étroitesse de l'élection due à des luttes intestines, l'arrivée prochaine d'Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission européenne est d'abord une bonne nouvelle pour l'Europe. C'est une femme courageuse qui a prononcé un discours prometteur en faveur du climat, de l'égalité, de l'état de droit, des conditions salariales et d'une vision plus humaniste de l'asile. Elle est à même d'amener un souffle nouveau sur une Union européenne qui en a bien besoin. Est-ce qu'elle facilitera la relation complexe avec la Suisse ? On n'en sait rien. Elle n'y a pas fait allusion dans son discours et dans une Berne politique déserte cette semaine, personne pour prendre position. Trois éléments pour tenter de se faire une idée. Elle est favorable à l'unité et à l'égalité de traitement en Europe et certainement peu encline à multiplier les exceptions. C'est très moyennement bon pour la Suisse. Ensuite, c'est une Allemande qui n'est pas issue du microcosme bruxellois. Elle aura peut-être une approche moins idéologique du cas particulier de la Suisse. Ce qui peut apparaître comme le plus réjouissant pour notre pays, c'est le départ du bras droit de Jean-Claude Juncker, le Belge Martin Selmayr, peu favorable aux spécificités suisses. Il s'agira d'observer attentivement qui entourera Ursula von der Leyen à la Commission. C'est certainement là que se trouve la clé de la future relation entre Bruxelles et Berne.
Bien avant le 21 juillet 1969, nombreux sont ceux à avoir rêvé l'homme se rapprochant de la Lune et à lui avoir fait poser le pied dessus. Que ce soit dans la littérature, le cinéma ou encore la bande dessinée avec le célèbre objectif Lune de Tintin sorti en 1953, il y a toujours eu un lien fort entre l'imaginaire de l'humanité et le corps céleste. On en parle aujourd'hui avec Marc Attala, le directeur du musée de la science-fiction, la maison d'ailleurs à Yverdon.
Il y a eu deux exploitations, on va dire, majoritaires de la Lune, dans la fiction et la poésie. C'est-à-dire que vous avez à la fois des récits qui se déroulent sur la Lune, en sachant que dans cette tradition littéraire, la Lune est utilisée, si vous voulez, comme une sorte de miroir déformant des problématiques, elles, très terrestres. Vous avez aussi, alors, un courant peut-être plus intéressant par rapport à la Lune, ou à l'imaginaire de la Lune, qui est le courant symbolique ou poétique, c'est-à-dire l'idée que la Lune, qui éclaire l'obscurité, qui est tout ce qu'elle a d'un peu angoissant, effrayant pour certains, c'est à la fois cette présence bienveillante, cette présence qui nous éclaire dans l'obscurité. Donc elle a une dimension poétique très forte. Et ces deux grandes tendances montrent aussi que la Lune scientifique, celle qui existe telle qu'elle est, n'est pas très importante. Ce n'est pas la Lune qu'on regarde, mais c'est l'être humain à travers un détour sur la Lune que l'on va regarder.
Avant 69, y a-t-il une œuvre que l'on pourrait peut-être mettre par-dessus les autres ? Et pourquoi cette œuvre ?
Je ne pense pas qu'il y ait de hiérarchie, mais je dirais en tout cas un des récits les plus connus littéraire, puis après qui a été adapté au cinéma, c'est évidemment les textes de Jules Verne, hein, d'abord de la Terre à la Lune, puis ensuite autour de la Lune, qui vont être ensuite utilisés au cinéma avec les premiers films de Méliès. Chez Jules Verne, son objectif éditorial, c'est de pouvoir vulgariser la science de son temps pour les petits bourgeois qui vont lire les Voyages extraordinaires de Jules Verne. Et donc, en fait, lorsqu'il va poster son obus sur la Lune, c'est aussi pour parler de toutes les sciences en pleine effervescence au XIXe siècle, et en particulier l'astronomie, qui permettrait, grâce à la technologie, de pouvoir étendre notre rapport à l'espace. On peut aller plus loin que ce que la Terre nous permet de visiter, parce qu'on maîtrise enfin un ensemble de techniques qui nous permettent de nous affranchir de nos limitations terrestres. Donc je dirais que c'est l'œuvre peut-être la plus culte plutôt que supérieure, parce que tout le monde a lu, ou en tout cas tout le monde a déjà vu ces images de Méliès, de cette lune qui reçoit la fusée, ou même du texte de Jules Verne. Parce que c'est peut-être l'œuvre la plus scientifique aussi. C'est celle qui essaie de couper cette idée que la lune est utilisée pour refléter l'humain. La lune est un objet céleste qu'on peut atteindre, point.
L'homme marche sur la lune, qu'est-ce qui change à ce moment-là ?
Étrangement, pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est que du moment où vous avez le monde réel, où l'être humain se pose sur la lune, les récits de science-fiction, qui sont souvent ceux qui traitent de ce genre de questions-là, on doit avoir ce sentiment que c'est possible. Et donc du moment où on s'est posé sur la Lune et qu'on s'aperçoit, oh déception, qu'il n'y a rien, évidemment c'est plus compliqué d'imaginer écrire un récit de science-fiction qui va se passer sur la Lune. Donc ce qui va se passer dans la science-fiction post-alunissage, c'est que la Lune va soudainement devenir non plus un objet littéraire qui permet de réfléchir par contraste aux problématiques terrestres, mais va devenir un objet souvent traité de manière ironique. C'est-à-dire qu'en fait, on va y placer des choses dans des récits ironiques. Je pense par exemple au film Iron Sky, hein, où, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a des nazis qui sont partis sur la Lune et qui ont établi une sorte de société décadente sur la face cachée de la Lune. On va voir aussi apparaître des Transformers sur la Lune, dans l'opus des Transformers, qui doit être le 3 ou le 4, qui s'appelle d'ailleurs Dark Side of the Moon. C'est-à-dire que c'est soudainement la face cachée qui va devenir la dépositaire des récits possibles sur la Lune, puisque c'est le seul endroit qu'on ne voit pas, donc c'est le seul endroit encore mystérieux, et donc c'est le seul endroit où on peut encore meubler avec d'autres choses.
Des propos recueillis par David Sanchez, et vous pouvez retrouver notre série dédiée aux 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune sur notre site internet. Des résultats en baisse pour Swatch. Le groupe a publié son rapport semestriel ce matin. Le chiffre d'affaires s'élève à 4 milliards de francs, un recul de 3,7% par rapport à la même période l'année passée. Le bénéfice net s'est rétracté quant à lui à 415 millions de francs, un recul de plus de 11%. Des résultats qui devraient toutefois s'embellir lors du deuxième semestre selon l'horloger. Et dans l'actualité internationale en Turquie, le représentant de Reporters sans frontières accusé de propagande terroriste a été acquitté ce matin par un tribunal turc. Il risquait plus de 14 ans de prison pour avoir participé à une campagne de solidarité pour un quotidien pro-kurde. Un instant historique au Soudan, les militaires au pouvoir et les meneurs du mouvement de contestation sont parvenus à un accord ce matin. Le texte entérine le partage du pouvoir pendant la période de transition après la destitution d'Omar el-Béchir en avril. Les deux parties ont paraphé une déclaration politique après une nuit de discussion qui ont finalisé les derniers termes d'un accord trouvé le 5 juillet.
Vous écoutez RFJ, il est 12h28.
Sport. Les cyclistes du Tour de France se remettent en selle. Après la journée de repos d'hier, les protagonistes de la Grande Boucle reprennent la route aujourd'hui pour une étape de transition longue de 167 km entre Albi et Toulouse. Elle doit permettre aux sprinteurs de se mettre en vitrine à la veille d'attaquer les Pyrénées. Sur la route du Tour, la présentation de cette 11e étape est signée par notre confrère de RMC Sport, Clément Brossard.
D'une terre de rugby à une autre, après une journée de repos, les coureurs reprennent leur route vers les Pyrénées. Départ sur les bords du Tarn à Albi pour cette 11e étape longue de 167 km. Un tracé idéal pour les grosses cuisses qui devraient s'expliquer non loin du Palais des Sports de Toulouse. C'est la 18e fois que la ville du champion de France de rugby accueille la Grande Boucle. La dernière, c'était le 12 juillet 2008. Le Britannique Mark Cavendish s'imposait juste devant son coéquipier Gérald de Siolek et le Français Jimmy Casper. Trois hommes lancés tels des ailiers sur leur côté. Mais avant de tenter ce dernier sprint vers la terre promise, l'équipe Tour de France s'expliquera une première fois à Gaillac, une commune marquée au fer rouge par la Rugby Mania, qui a connu son heure de gloire avec Bernard Laporte, Vincent Moscato et plus récemment Geoffrey Palisse. Le 18 juillet 2013 également, le Tour de France y pose la ligne de départ de son contre-la-montre, une épreuve remportée haut la main par l'Allemand Jan Ullrich devant Lance Armstrong et Alexandre Vinokourov. Aujourd'hui encore, d'autres grands noms de la pédale tenteront de mettre la suprématie du ballon ovale dans la ville rose. Entre parenthèses.
Toujours en deux roues, l'avant-dernière étape du Trophée du Doubs est au programme ce soir. Les cyclistes s'élanceront de Saint-Ursanne pour rallier Saint-Bray. L'étape compte 12,3 km pour un dénivelé de 569 mètres. Le départ sera donné à 19h15. En football, c'est l'un des gros transferts de l'été qui se profile. Matthijs de Ligt va rejoindre la Juventus. Le défenseur néerlandais de 19 ans est arrivé hier soir à Turin. Le club italien devrait lâcher 70 millions d'euros pour l'acheter à l'Ajax d'Amsterdam, ce qui en ferait le troisième joueur le plus cher de la Juve. Le HC Lugano a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club de hockey sur glace de National League annonce aujourd'hui l'arrivée du Canadien Ryan Spooner, l'attaquant de 27 ans, 45e choix de la draft 2010 de NHL, s'est engagé pour une saison.
Merci Thomas Nagy, bon appétit l'ami, et rendez-vous bien sûr pour un prochain point d'actualité. Ce sera tout à l'heure à 16h. La météo. Météo News qui nous annonce un temps bien ensoleillé ce mercredi avec des voiles d'altitude. Les franches montagnes devront compter avec le développement de cumulus sans grande conséquence pour la région et il n'y aura pas de risque d'orage. Il va faire bien chaud aujourd'hui. Les températures vont atteindre 28 à Port-en-Truy, 28 à Delémont, 24 à Seigne-Légier, 23 à La Chaux-de-Fonds ou encore 27 à Moutier et la région. Pour demain, des conditions ensoleillées semblables à celles d'aujourd'hui, elles seront estivales. Même chose pour vendredi. Et alors le week-end, eh bien, nous franchirons la barre des 30 degrés en plaine et 26 à 1000 mètres d'altitude.